Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Ici s'ouvre la porte d'un immeuble. Les murs ne sont pas vierges. On explore ce soir la mémoire du lieu, les lieux habités, hantés. Puisque la mémoire est physique, elle est dans les murs, capturée. Elle est dans les objets. L'homme rentre dans sa maison et nous, on rentre dans son inconscient. On voit les coins, les recoins, les pièces ignorées. Une nouvelle architecture de nos mondes intérieurs. On ouvre la boîte noire. Il y a des pièces cachées, des portes fermées. La maison est toujours le point de rencontre de la mémoire et de l'imagination. En anglais, on dit « home » et il n'y a pas de meilleur mot. « Home », chez soi, comme une ancienne adresse à laquelle on retourne toujours. On perd la clé parfois, mais on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on revient. C'est le lieu originel et définitif de notre rêverie. La maison protège le rêveur, c'est le premier monde. Et soyez rassurés, à partir de maintenant, les fantômes peuvent entrer. Au 47, rue de la Goutte d'Or, au cœur du 18e arrondissement de Paris, se dresse un ancien immeuble construit en 1848 pour des demi-mondaines, amis des ingénieurs chargés de la construction de la gare du Nord. Depuis, il y a eu des passages, ouvriers, artisans. Toujours, il est resté comme un îlot. Les nouveaux habitants en ont fait un cocon. C'est un huis clos qui permet de poser la question du vivre ensemble. Et comme le dit Jean Forest, le plus ancien habitant de l'immeuble, au 47, souvent, on est spectateur. On y est également auteur ou narrateur, et l'histoire du bâtiment s'écrit comme une fiction. Le 47 de la Goutte d'Or, par Nina Halberg et Simon Pocher, réalisation Véronique Lamandour.
Nous sommes en l'an 2025, Paris, quartier de la Goutte d'Or. Un silence lourd, entrecoupé par le passage de rares camions. Beaucoup de rideaux de magasins sont fermés, à vendre, à louer. Les rares piétons glissent, silencieux. Reste cet immeuble qui a été épargné grâce à quelques hurluberlus du quartier qui s'étaient battus pour le faire classer. Le seul îlot historique, avec sa superbe rampe d'escalier, signalée dans le guide du routard et que les jeunes touristes visitaient, leur petit livre à la main. C'est un immeuble de rapport, gaz à tous les étages, au coin de la rue Capla, édifié en 1850 et destiné, dit-on, à loger ces dames, les officielles et les moins officielles, de ces messieurs les ingénieurs qui travaillaient à la construction de la gare du Nord.
Après, donc vous vous souvenez du code ?
Ah non, pas du tout. Ouais. Je pense qu'il a changé depuis des années. Hein. On était opposés au code d'ailleurs.
Pourquoi ?
C'est un immeuble qui a toujours été ouvert. Et à partir du moment où on a mis cette double porte avec l'interphone, il a fallu mettre un code. Donc ça veut dire une deuxième fermeture. C'était pour nous un peu difficile parce que ça correspondait plus à ce qu'on aimait dans ce quartier, quoi.
Bonjour. Moi, j'habite à Goutte d'Or et je fais des balades urbaines habituelles.
D'accord.
Et je travaille notamment avec l'Institut des cultures d'islam. Okay. Et là, je vous présente un groupe d'étudiants américains qui viennent de Chicago. Hi. Et on vient de faire un petit tour dans le quartier. Ouais. À propos de ce qu'on appelle les mobilisations populaires. Donc, on a parlé de la chute de Louis-Philippe, de la Commune, etc. On a parlé de la guerre d'Algérie. Et là, on va juste aller maintenant à Saint-Bernard pour parler des sans-papiers. Et après, ce sera la fin de leur visite et ils vont devoir repartir à de nouvelles aventures. sûr. Il faudra que je potasse la chose, mais je ne connais pas grand-chose sur cet immeuble. Et c'est tout. Alors, moi, j'ai dit quand même que c'était un pur fin Louis-Philippe, hein, cet immeuble, c'est magnifique.
Et c'est daté de 1847.
Eh bien ici, nous sommes dans le hall d'entrée de l'immeuble du 47 rue de la Goutte d'Or. Il en a vu pas mal, des vertes et des pas mûres, si on peut dire. Il a souvent été très mal entretenu, presque abandonné. On en voit les traces aujourd'hui. Donc il est fait aussi de tas de choses qui ont été bricolées, rajoutées. C'est un immeuble à rustines, je dirais, comme beaucoup de trucs anciens. Donc là, quand je suis ici, ben, je vois toutes ces choses que je vois là n'y étaient pas quand je suis arrivé dans les années 70.
Thank you.
Bye.
Bye.
Il en a vu des drôles, cet immeuble. Si la crasse et les fissures pouvaient parler...
C'est mon ami d'enfance, avec qui j'étais très lié quand les parents avaient cet immeuble. Tous ces appartements étaient loués, en loi 48. Voilà, c'était très, très populaire. Il y avait des gens d'ailleurs assez vieux qui étaient là. C'était en 58. Et très vite, s'est posé la question de l'Algérie, c'est-à-dire du service militaire. Voilà, j'étais en fin de sursis. Et j'étais tous, évidemment, contre la guerre d'Algérie, bien sûr. Eh ben, on y est allé. Voilà. Et c'est là où j'ai rencontré notre ami Chaussa. On s'est rencontrés sur le bateau, voilà. Malades comme les chiens l'un et l'autre. Et donc, on a souffert, comme ça, l'un et l'autre, dans une guerre qu'on répouvait totalement. Voilà. Bon, on est revenu ici, et donc moi, je rentrais le soir. Non, je n'avais pas peur. J'étais évidemment consterné parce que je ne comprenais rien. Parce qu'on était complètement isolés. Parce que d'un côté, il y avait le FLN, il y avait tout ce qui se passait. Et puis, nous, petits Européens, on était complètement, si tu veux... on se méfiait de nous, évidemment. On ne pouvait pas aller dans un café, on pouvait aller nulle part. Parce qu'ils pouvaient penser qu'on était des indiques. Voilà, donc... c'est pour ça. Et en fait, j'avais, moi, une méconnaissance totale du quartier. Et puis, le quartier, c'était tous les jours, dans François, fusillade à la Goutte d'Or, un mort de la Goutte d'Or. Et effectivement, donc c'était, on ouvrait le coffre d'une voiture, on voyait un cadavre. Tous les jours, c'était ça. Plus les harkis en face, qui étaient attaqués tous les jours par le FLN à coups de grenade, et voilà, bon, alors, plus des tortures, on entendait les gars gémir, donc j'avais eu en Algérie, moi, déjà, je le retrouvais ici, quoi, en face. Qu'est-ce que c'était la guerre d'Algérie pour les petits Français qui étaient là? Eh ben, les gamins cachaient leur adresse. Pour ne pas dire qu'ils habitaient rue de la Goutte d'Or. C'était une rue maudite. Oh! Oh! Ah non! Ah la fissure! Ah la fissure! Aïe, aïe, aïe! Ah la fissure! Vous voyez la fissure? Putain! Ah la fissure! Regardez ça, la fissure! Bon.
Tu montes ici?
C'est quoi ça? Ouais. Donc la concierge, elle habitait là. Elle habitait là, et elle avait la loge.
Alors c'est, quand on est de gauche, c'est Yasmina et moi qui avons fait le licenciement de la concierge. Je pense que ça devait être comme partout, on a remplacé la concierge par une double porte avec un interphone. Et ça c'est fait.
Il en a vu des drôles, cet immeuble. Il en reçut des artistes et des poètes, des musiciens, des écrivains, des peintres, des chanteurs, des militants, des scientifiques, des pédagogues, une immortelle même, Elle est morte d'ailleurs depuis. Et de tous les pays.
Ici, il y avait le laboratoire de photo de Jean.
C'était en 82.
Ouais, un joli laboratoire dans lequel il y avait tout. C'était fantastique.
On y le laboratoire, beaucoup. C'était surtout notre douche quand on est arrivé. Pendant un an et demi, on n'avait pas de douche encore dans l'appartement. Donc on venait se laver ici au premier étage. On habitait au troisième étage et on venait se laver au premier.
Mais c'était génial parce qu'il y avait absolument tout et on pouvait faire de la photo extraordinaire ici.
Et je crois que ça, c'était super dans cet immeuble, c'est que c'était symbole de générosité et d'ouverture.
Ouais. Les portes ne fermaient
vraiment
pas.
Les, c'était un truc extraordinaire. Jean, directement, on est arrivé, il nous a laissé une clé, il nous dit, allez vous laver au premier étage.
Vous nous emmenez là où vous habitiez ?
Allez,
il y a Summerfull.
Bonjour.
Merci, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Là, on est au troisième étage sur un plancher qui est branlant. Ça n'a pas bougé depuis 40 ans. Ça bouge toujours autant. On est sur un bateau.
Donc, qui habitait là ?
Un professeur émérite de Cambridge et des travailleurs d'Alger et de Gaza. Des Chinois de Taïwan et des marchands de gris-gris de Bamako, des Maghrébins marchands de tissus et des gens sans qualité, des immigrés de Valencia, de Bari et de Piancheretto.
Porte de gauche, donc c'était Philibouille, Madame Philibert, une Antillaise un peu alcoolisée. Elle aime beaucoup le rhum.
Elle était déjà bien âgée quand on est arrivé, elle avait déjà presque 80 ans, je crois. Hein.
Ouais.
82, quelque chose comme ça. Hein. Ensuite, il y avait donc ce fameux appartement que nous avons occupé, centre-gauche, si tu veux, d'accord, centre-gauche. Alors après, au centre, face, c'est l'appartement de...
C'était deux vieux
homosexuels.
Un couple homo qui habitait là.
Et malheureusement, le bail était au nom de l'un, pas de l'autre, et celui qui est mort le premier, c'était celui qui était titulaire du bail, et l'autre a dû partir, parce qu'à l'époque, Pax... Tout ça, cette colocation, ça ne marchait pas et du coup, il a dû partir. Donc après, il y a la porte factice. Et côté droit, c'est l'appartement de Jean Forest.
Et des fous. Et des gens tombés bien bas. Une vieille écervelée antillaise qui insultait tous les gens qui passaient sur son palier. Une ancienne prostituée tellement déglinguée qu'elle se fractura le fémur dans son sommeil. Une autre qui hébergeait les clodos du coin et qui faisait fuir les petites filles. Une vraie fée carabosse.
Nous sommes au troisième étage. L'immeuble compte 6 étages. Le troisième étage est devenu très vite et naturellement un étage de... Là où on se ressource et on a besoin de reprendre son souffle et tralala. Donc ici, c'était le salon. Et petit, notre salon, mais il marchait bien. On a toujours toutes les portes ouvertes.
Tu veux dire le palier ?
Ce palier, donc, est devenu le salon. Les gens reprennent leur souffle ici. Et on sort chacun un truc. Et on parle des heures. On a beaucoup piétiné. C'est peut-être pour ça qu'il est plus branlant que les autres étages.
Ah, tu voulais pas enregistrer les pas dans l'escalier.
On en a fait.
On en a fait, t'inquiète.
Vous en avez fait ?
Oui.
Ah, moi j'avais mis les grosses chaussures de marche. Hop.
Bon, on arrive dans ton appartement, là.
Mais non, c'est le vôtre.
Mais c'est là où t'as vécu pendant presque 40 ans.
Des photographies, éventuellement.
C'est ton métier, t'étais photographe.
C'est devenu mon métier. Voilà. Et donc, j'y ai fait un certain nombre de photographies. Enfin, voilà. Mes souvenirs, si tu veux, Non, c'est pas très, très intéressant, si tu veux. Ça, tout ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qui s'est passé autour. Voilà, c'est ce qui s'est passé autour. Hein, en 70, tout le quartier a bougé. C'est ça qui est intéressant, en fait. Et pour nous, nous, on est toujours... on est spectateur. Et cet immeuble n'a son intérêt que dans un spectacle de ce qui se tramait autour. Voilà. Et pourquoi ? Parce que nous, on est juste au carrefour. C'est-à-dire qu'on voyait, si tu veux, le quartier évoluer. Progressivement, sont arrivés les Algériens, plutôt des Algériens juifs ou marocains qui ont commencé à acheter. À acheter des magasins de tissus, des magasins de... Voilà.
En fait, c'est après la Première Guerre mondiale qu'ils s'installèrent. Les premiers immigrés avec leurs paquets mal ficelés, leurs costumes exotiques et le tragique espoir d'une vie meilleure. Et ce quartier de petites gens respectables a peu à peu changé de physionomie.
Si tu veux, le quartier changeait. Si tu veux, toi, bon, le quartier s'étendait. C'est-à-dire que là, ces petits commerçants français ont tous déménagé les uns après les autres. Et puis, c'était, voilà, les autres qui sont arrivés jusqu'au boulevard Barbès. Et donc, le boulevard Barbès, c'est une frontière.
L'épicier arabe a pris la place de la mercière qui partait à la retraite. L'hôtel du Nord s'est converti en bordel. Les lits se sont superposés dans des caves pour permettre à moindre prix la réparation quotidienne de la force de travail des 3-8.
Et nous, on est au milieu, on ne bouge pas. On est comme une espèce de si tu veux, d'abcès ici, toi, qui est là. Qui ne signifie pas grand-chose, si tu veux, sinon sa situation qui est là. Et en 70, voilà les Blacks qui arrivent. Et les Blacks qui luttent, évidemment, avec les Juifs arabes, qui sont, eux, rue de Chartres qui avancent. Et les autres, ils sont rue de la Goutte d'Or. Hein. Et le soir, par exemple, nous, on était là, à l'immeuble, c'est pour ça que je te dis que, évidemment, il n'y avait qu'à se mettre à la fenêtre, parce que les Blacks, le soir, ils se battaient à coups de réverbère, hein, de panneaux de sens interdit. Hein.
Et les flics suivirent, un peu plus nombreux chaque jour, des en civil, des en tenue, en car, à pied, à moto, et les déchets de la misère entassés dans le ruisseau, matelas éventrés, télévision éclatée, réchauds ébréchés, chaussures éculées, chiffons sales et chaises bancales.
On a même eu l'époque où les Chinois commençaient à vouloir, si tu veux, s'immiscer. Mais, par ici, toi, bon, mais c'était toujours des espèces de ghettos qui bougeaient.
Et la valise, accessoire insigne et primordial du travailleur migrant, se mit à encombrer les étalages sur les trottoirs. Et puis un jour, ça y est, on est dedans, en plein, sans qu'on s'en soit aperçu. Le ghetto est là, venu tout doux, silencieux.
Moi, ma fenêtre, elle donne juste au carrefour stratégique où tout se passait. Donc, il me suffisait d'avoir l'appareil, même de faire vêtements, l'appareil sur pied, tout, dans la même position, paf, 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 paf. Tous les jours, pouf, 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 pouf. Ma position, elle était, je ne photographie pas parce que c'est trop facile. Hein. C'est un truc de fainéant, quoi. Et là, j'en suis malade, évidemment, maintenant, parce que nous n'avons pas de photos. Il n'en existe pas, il n'y a rien. Et moi, c'était une mémoire. C'était un truc, ça aurait été important qu'on le fasse, que quelqu'un le fasse, quoi, puisque on avait toutes ces possibilités.
Bonjour.
va rentrer chez Filibouille.
Redoutable
Filibouille. Là où on allait au début, on allait déguster les rhums arrangés.
Donc au début, elle vous invitait, madame.
Oui, on prenait les rhums arrangés. Ouais. Ça s'est dégradé un peu plus tard.
Alors, bienvenue.
Mais avec pas mal du monde. Sa salle de bain non plus n'existait pas quand on est arrivé. Elle n'avait jamais eu de salle de bain. C'est quand elle est passée sous tutelle, ils ont fait les travaux pour lui faire une salle de bain.
Donc elle faisait...
Mais ça correspondait aussi à la même époque où il y a eu l'obligation de faire des travaux de rénovation.
Pour se mettre aux normes des...
Oui, immobilier. Puis en même temps, ça s'est embourgeoisé. Je veux dire, c'était milieu ouvrier, assez pauvre. Et puis petit à petit, les petits bourgeois sont arrivés comme nous, etc. Donc on est venu habiter l'immeuble, on a mis des doubles portes, on a mis un interphone. Voilà, quoi, je veux dire.
Oui, déjà, il n'y avait pas de commissariat.
Il y avait une pharmacie à la place.
Il y avait un très, très joli bâtiment sur deux niveaux et c'était la pharmacie. Le jour de notre arrivée, c'était magique. Donc on a à peu près la même vue de l'appartement où on habitait et de chez Madame Philibert, on a à peu près la même vue. Donc je peux raconter un peu parce que c'était, on va dire, on se demandait qu'est-ce qu'on était venu faire dans ce quartier. Il y a une course-poursuite, il y a du bruit dans la rue, ça court. On se met à la fenêtre et on voit deux personnes qui se poursuivent avec une machette. Et ils rentrent dans la cour, tous les deux. Et les gens qui courent après pour essayer de séparer ces gens avec leur machette. Ils sont ressortis. Bon, il y en avait un qui était un bandage, mais il n'y a pas de blessure plus grave que ça quand même. Donc c'était quand même rassurant, mais c'était quand même très impressionnant. Vraiment. Et en plus... On a pris conscience que nos voisins, en fait, ils habitaient chez nous. Le même jour, on a pris conscience que nos voisins étaient chez nous. Donc c'était... Ben, on entendait des deux côtés les ébats amoureux de nos voisins homosexuels, donc de l'autre côté. Et ici, Madame Philibert qui marchait...
Sans ébats.
Un peu moins fun, mais quand même, on l'entendait bien. Elle était vraiment présente. Elle était vraiment chez nous, quoi. Donc ça, c'était quelque chose de... On était atterrés le premier jour. Et très vite, ça s'est amélioré.
Et un temps, la cour fut un lieu de prédilection pour les petits trafiquants du coin, du temps du marché aux voleurs, que les Africains appelaient plus poétiquement le marché soleil.
Ah, le marché soleil ! Oh pétard, il y avait le marché soleil ! Il y avait le marché soleil en bas. On faisait nos commissions en se mettant à la fenêtre. Si t'as des chaussures à vendre qui sont tombées du camion, des vestes à vendre et toutes sortes de choses à vendre, eh bien tu te retrouves avec les copains dans la rue et il y a les clients qui viennent et qui achètent. C'est le marché soleil. Donc tu regardais de ta fenêtre ce qu'ils vendaient.
Et vous les connaissiez les
Bah de vue, on se connaît tous. Une fois Jean, il part d'ici avec sa sacoche, il prend son vélo et descend jusqu'à Montparnasse, en vélo.
Une sacoche pleine d'appareils photo quand même, un Leica, et il descend à la FNAC.
Il arrive à la FNAC, là-bas, à Montparnasse, plus de sacoche. Il a tout dans sa sacoche, mais tout, c'est clair, tout. Donc il remonte en sens inverse de Montparnasse à ici, en vérifiant tous les trottoirs, les caniveaux et tout, rien. Il arrive ici à la Goutte. Là, à l'angle de la rue Capla, et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit accroché en haut du panneau, sans interdit, sa sacoche. Il dit, oui, tu l'as fait tomber en partant. Tu habites là, on te connaît, on l'a gardé, la voilà.
On était protégés parce qu'on habitait la Goutte d'Or. Et pareil, lorsque je rentrais le soir de la fac, j'avais des cours tard, 10h, 11h, je rentrais. Au départ, je demandais à Olivier de venir me chercher au métro. Et après, les gens me protégeaient parce que j'habitais le quartier. Je n'ai jamais eu aucun problème ici parce que j'habitais le quartier.
Et les dealers qui cachaient leur merde dans la cour et cette femme allongée sur le palier du premier bras en croix, une seringue plantée verticalement dans une veine du pli du coude. Overdose. Overdose. Et les locataires défilaient au fil des saisons et des années. Juste une courte pause pour certains, en attendant de trouver mieux.
On est arrivé très vite, on a vu des affiches un peu partout, quoi. Comité de défense du logement de la Goutte d'Or, donc c'est DDL. Et on est allé à une première réunion, c'est rue Affre, au 10 de la rue Affre, où il y avait le siège de l'association, qui après s'est intégré à Accueil et Promotion. Donc l'association CDDL a organisé une réunion d'information sur la rénovation et réhabilitation du quartier de la Goutte d'Or et des projets qui étaient en train de se mettre en place, où tout était vraiment orienté sur blanchir les murs et pas la population. Donc on est allé à cette réunion d'information peut-être dans 3 mois qui ont suivi notre arrivée dans le quartier, et c'est comme ça que très vite on s'est investi dans le groupe logement et puis après dans le groupe alphabétisation et Olivier avec le groupe sans papier.
Là on le voit pas maintenant, mais les immeubles étaient dans un état désastreux, c'était des taudis qui étaient empilés les uns sur les autres. On est rentré dans des lieux habité qui dépasse l'entendement, on ne peut pas savoir ce qu'on a vu.
Il y avait quand même une volonté politique de nettoyer le quartier, de faire qu'il soit moins cosmopolite. Et de l'autre côté, il y a la nécessité quand même aussi de remettre des habitations conformes et habitables, surtout. Pour chacun des immeubles, on s'est battu pour que les gens puissent rester.
Proprio-actionnaire, même combat. Ce n'est qu'un immeuble de rapport, n'est-ce pas? Alors tant qu'il n'y a pas le feu.
Bonjour, vous venez pour la visite?
Oui.
Jean-Forest n'est pas encore là.
D'accord.
Mais il va arriver, ne vous inquiétez pas. Okay. En fait, vous êtes dans cet appartement. Et du coup, en fait, on a un
interphone
commun.
Ok. Du
sommet.
Ok. Ok, super, merci. Bonjour Marie.
Merci.
Ça va?
Oui.
Ouais. Tu peux nous décrire la vue un peu d'ici?
Alors on a vu sur la place centrale de la rue de la Goutte d'Or, le commissariat et le Sacré-Cœur. On a vu sur toutes les tours du Sacré-Cœur d'ici.
Est-ce que c'est un quartier où t'apprécies vivre?
Oui, beaucoup, beaucoup. Il y a, je sais qu'il y a... Parfois ça étonne parce que c'est une rue qui a, enfin, qui a pas une très très... Parfois une bonne réputation, mais moi je me sens très très bien. Et je veux dire, ma mère y travaille, j'y vis, j'y ai grandi, j'y ai fait ma scolarité. Ouais, moi je me sens très très bien. C'était une petite école, j'ai gardé la même classe pendant 6 ans. Et j'y ai pas passé une très bonne scolarité. Je ne me suis pas très bien intégrée, mais après, au bout de 6 ans, donc mon CM1, j'ai changé et je suis allée à Foyatier, l'école Foyatier. Ça s'est très très bien passé. Je m'en suis très bien sortie au final.
Et qu'est-ce qui s'est mal passé?
J'étais la seule blanche de ma classe et les élèves voyaient du racisme, enfin, comme si j'étais raciste avec eux. Mais c'était l'inverse en fait. Enfin, c'était moi qui me faisais clairement discriminer, j'étais pas bien intégrée, j'étais différente, enfin, on me faisait clairement sentir que j'étais différente. Et en fait, au final, j'ai réussi à me détacher de cette école qui ne m'aidait pas à grandir et j'ai réussi à faire qu'autre chose ailleurs.
peut-être rentrer.
Ouais. C'est un immeuble avec des gens qui sont maintenant dans un peu... Il n'y a pas trop de jeunesse. Maintenant, ça arrive, hein, mais il y avait plus des personnes âgées ces dernières années. Par exemple, Madame Garrigos, qui est ma voisine de palier, qui était comme ma deuxième grand-mère et qui est morte il y a un an et une semaine. Et voilà, c'était une femme géniale. Madame Garrigos, par exemple, cuisinait pour nous, pour nos anniversaires ou pour la galette des rois. Elle était très discrète, elle ne voulait pas vraiment entrer dans la famille. Du coup, elle mettait ça sur notre poignet, dans un petit sac. Ça faisait très, très conte de fées. Je rentrais de l'école, j'avais un petit gâteau tout prêt sur le paillasson. C'était génial.
La varappe de la grande paroi ou le manuscrit trouvé à la goutte d'or.
Alors, les relations entre voisins sont pas mal mouvementées ici, mais dans l'ensemble, il y a une bonne ambiance. Il y a eu, mes plus importants souvenirs au sein de l'immeuble avec les voisins, c'est la voisine du quatrième, qui aujourd'hui est décédée, mais qui me terrorisait quand j'étais petite.
Pourquoi ?
Parce qu'elle était alcoolique, elle était très casanière, elle sortait jamais de chez elle et les rares fois elle sortait de chez elle, c'était pour sortir des bouteilles et elle me menaçait souvent en insultant mon papa. Un souvenir, c'était en bas des escaliers, elle a levé une bouteille vers moi et ma sœur et elle nous a dit « Votre père, c'est qu'une citrouille !» Et elle a acheté la bouteille. Heureusement qu'elle ne savait pas viser, mais voilà. C'était pas une très gentille personne avec les enfants, en tout cas.
Tandis que j'écrivais ces mots dans une chambre de bonne, au sixième étage d'un immeuble crasseux de Barbès, un ivrogne qui sortait de l'appartement voisin est tombé dans l'escalier, méchamment. Police, secours est venu brancarder le pochard ensanglanté. On s'habitue à tout, rue de la Goutte d'Or.
De femme, mais très pas méchante, contrairement à Madame Gauthier, mais qui était persuadée d'avoir des chats, mais qui n'en a jamais eu, et qui criait parfois. Elle avait des moments de panique, elle avait plus d'eau pour ses chats. On lui ramenait de l'eau, mais elle avait pas de chat, donc elle avait plein d'eau pour ses chats sans chat. Non, mais c'était une femme un petit peu perdue, elle était très seule et elle aimait bien mon papa.
On s'habitue à tout, rue de la Goutte d'Or. La semaine dernière, c'est un homme nu qui s'est jeté par sa fenêtre du sixième étage.
En fait, ma chambre est sous les toits, donc j'ai un Velux. Et ça fait très écran de cinéma. Et en fait, une nuit, je me suis réveillée avec des bruits mais assourdissants. Et j'ai ouvert mon store que j'avais avant, que je n'ai plus maintenant. Et en fait, j'ai vu un hélicoptère qui était en face de ma fenêtre. Et je voyais le pilote. Et en fait, il avançait, et j'ai cru qu'il avançait vers moi. Donc moi, j'ai eu très très peur, je me suis jetée au sol en l'occurrence. Mais non, il passait par-dessus l'immeuble parce qu'il y avait eu un suicide dans la cour arrière de l'immeuble. C'est toujours très gai, mais c'était ça. Et ma maman avait cru qu'on était en guerre. Mon père ne s'est pas réveillé, et ma sœur pensait que c'était un tournage de film, quelque chose comme ça. Donc,
Vous habitez à la Goutte d'Or ? Moi aussi, monsieur, j'ai habité ce quartier. Il ne faut pas dramatiser. C'est une des rues les moins dangereuses de Paris.
Marie, tu m'avais dit que tu lisais en ce moment l'Assommoir ?
Oui, je l'étudie au lycée avec ma professeure de français. Et on en a fait une étude très, très approfondie. Et c'est vrai que, en lisant, tout début, on nous dit que c'est rue de la Goutte d'Or. Et j'ai toujours pensé que c'était l'immeuble, en fait. Enfin, quand on parle, parce qu'il y a quand même une histoire assez importante dans le hall de l'immeuble dans l'Assommoir. Gervaise meurt dans le hall. Et en fait, au premier étage ici de l'immeuble, les escaliers, à un moment donné, qui tournent, en fait, changent de sens. Et il y a un espèce de petit coin en enfoncement. Et j'ai toujours... Enfin, ça s'appelle la cave du Père Bru, normalement, dans le livre. Et j'ai toujours pensé que c'était là qu'était morte Gervaise Macquart, dans l'assommoir de Zola. Bon, ça sert plutôt de dépôt, mais c'est un atelier avec des grandes tables en bois sur lesquelles je fais de la terre. Là, c'est les plantes de Pierre Chaussa donc, qui servent de séparation. Et ça, c'est une vache en papier mâché. Mon atelier est sur le palier, mon palier commun donc avec Pierre Chaussa qui donne sur le toit. Il y a une fenêtre qui donne sur le toit. Et c'est le dernier étage de l'immeuble.
Donc ça, c'est le 47e du mois. Donc c'était quoi, le 47e du mois?
C'est un petit magazine, je crois. Oui, c'est ça. Ici, c'est Marie et Anna s'exposent. C'est donc moi et ma sœur. Et c'est des dessins de nous. Enfin, essentiellement de moi, parce que ma sœur dessinait peu, mais c'est très, très coloré. Donc celui-ci, alors, c'est joli ce que j'avais fait. C'est donc une petite porte rouge. Comme la porte de notre immeuble est rouge, avec des longs escaliers qui ici sont en forme de serpent, mais ça, je voulais sûrement représenter des escaliers en colimaçon. Et plusieurs étages avec des gens de l'immeuble. Premier, Monsieur Beau. Deuxième, Séverine. Troisième, Marc. Quatrième, Luc. Diaz. Adèle. Et cinquième, Barbet Saint-Blair, c'est nous. Et sixième, Pierre Chaussa.
Et le vieux fou du sixième. Immuable, celui-ci.
Salut, ça va?
Apparu après une rupture pour cause d'ennui conjugal profond et définitif, installé dans une chambre de bonne à son arrivée, 7 mètres carrés, pas d'eau, pas de gaz et une seule ampoule électrique, il a pu par la suite agrandir son territoire en rachetant quelques chambres, taudis, attenante à la sienne et réunir tout ça de briques et de brocs, 50 heures électriques au départ, et y installer ses livres, ses pinceaux et ses outils.
Alors là, il y avait un couloir. Non, là, voilà, la cuisine était d'ici à la baignoire. Et la baignoire, c'était un couloir qui menait jusqu'au bout. Oui, c'est un grand, où il y avait plusieurs chambres de bonne. Là il y a deux pioles. Donc, j'ai tout cassé aussi.
Et maintenant, c'est quoi? Ici?
Ben, c'est mon atelier. Ça, je l'ai fabriqué, c'est un établi de sculpteur, en fait. En fait, oui, j'ai plutôt des périodes. Je veux dire, il y a des moments où j'ai fait pas mal de masques à une époque où j'enseignais le théâtre et l'expression corporelle à l'école de la rue Blanche. Et donc, on manquait de masques pour travailler, pour faire des improvisations, choses comme ça. Ce qui fait que je m'y suis mis, puis j'avais envie d'en faire, donc je m'y suis mis. Puis j'ai fait des choses un petit peu à part.
Alors, c'est rigolo, on repasse par la salle de bain pour rentrer dans l'entrée.
Oui.
Passèrent les années, les jeunes grandirent et les grands vieillirent. Le vieux fou prit sa retraite, une retraite d'artiste. C'est pas le Pérou, mais le vieux fou pratiquait la philosophie de la décroissance depuis toujours et vivait de peu en équilibre.
Clac, clac. Je passe.
Et alors ici,
vous êtes où
maintenant?
Ah ben ici, alors on est dans la salle des ordinateurs.
Les jours passèrent.
Ce petit papier, là.
Alors, il demeurait.
Ben, tout ça, c'est mes...
Et il connut à son tour le phénomène de la peau de chagrin, le rétrécissement progressif du cercle des amis.
Je travaille beaucoup avec des fiches.
Il avait l'habitude d'accompagner sa signature des deux caractères chinois, Lao et Kuei, vieux et tortue, vieille tortue. Souvenir de son initiation à la calligraphie, petite coquetterie. Et il s'installa dans une vie de moine sans Dieu, d'ermite athée, avec sa chair toujours à vif, ses révoltes d'adolescent et sa terrible conscience d'impuissance devant la bêtise du monde.
Alors mais avant l'ordinateur, c'était la table, mais il y a une époque où on était beaucoup souvent ici, et j'avais fabriqué cette table avec un plancher, et encore une fois de la récup de l'immeuble, là, tous ces trucs-là. Et donc, on a mangé, là, je ne sais pas, une quinzaine dans cette pièce, à certains moments.
Quand on est vieux, on ne se fait plus d'amis. Peut-être parce qu'on devient plus difficile quant au choix de ses proches et que l'on exige beaucoup plus d'eux que leur fonction de compagnon de jeu et de trompe-l'ennui. Et pourtant, ça vit fort dans sa caboche. Même si ça brasse un peu moins d'air alentour, les cellules grises tournent à plein régime, présent, passé et futur antérieur, et on découvre que le passé n'est pas passé, que le présent est insaisissable.
Attends, ne lâche pas surtout. Comme je fais de la photo, j'ai beaucoup fait des images à partir de ces vasistas, donc qui donnent en plein sur la flèche de Saint-Bernard. Quand je m'y suis installé, il y avait un immeuble qu'on appelait l'immeuble de la Pointe. L'immeuble de la Pointe, qui était une très belle forme, qui se terminait comme une étrave de bateau. Et puis, je ne sais pas quel est le plaisantin qui avait fait installer sur un mur une espèce de mosaïque qui représentait une vague forme de goutte d'eau en mosaïque dorée. La goutte d'or. Il paraît qu'il y a même eu un projet à un moment de construire une espèce de porte de style arabe. Alors, par chance, on n'a rien fait. C'est un quartier où j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu comme un oignon. Chacun avait droit à sa couche, mais on pouvait très bien se balader dans le quartier sans avoir aucun problème ni quoi que ce soit, sans rien connaître, quoi. Il y avait un petit groupe qui était le groupe le groupe des jeunes, mais les autres étaient des petits, j'appelle des petits blancs, mais qui ne vivaient pas tellement en collectif, en fait. Chacun vivait dans son coin, bon, il n'y avait pas de salade. Je crois qu'il a une histoire un peu à part, cet immeuble, dans le quartier. Certains autres immeubles là, du coin, qui sont à 20 mètres, 30 mètres, ont été complètement habités par des gens de l'immigration, etc. Nous, non. Les seuls qu'il y a eu que j'ai connus, moi, de l'immigration, pratiquement, ce sont soit des immigrants d'origine européenne. Et pourquoi nous, il n'y a pas eu ça, je ne sais pas.
Puis peut-être une cooptation. Tu vois Jean Forest qui ramène ses amis.
Ça a sûrement joué après, oui. L'immeuble sans forêt, c'est assez impensable dans son histoire.
Ça n'a pas de prix, un vieux. C'est comme un Picasso. Alors le vieux, il peint, il écrit, il sculpte, il travaille sans répit, sans temps mort, créé pour résister, selon Deleuze. Il se tient au courant de l'état du monde. Tristesse, désespérance, révolte. Mais que de jeunes disparus. Et lui qui est toujours là.
Là, je suis installé de la goutte d'or depuis 2000. Voilà, ça fait une quinzaine d'années maintenant. Voilà, on est spécialisé dans l'article tunisien, algérien, marocain, voilà, Nord-Afrique. Voilà, on a un peu de tout. Voilà, c'est ça, ce qu'on a.
Ouais. J'ai l'impression qu'il y a deux choses principales quand même. Vous vendez des tissus et puis des valises, c'est ça?
Oui, oui, des valises. Bon, des valises pour les voyageurs, voilà, qui partent en vacances. Voilà, pour les...
Et il y a beaucoup de boutiques comme ça dans le quartier, des boutiques de tissus. Vous savez combien vous êtes?
Non, je ne sais pas, mais avant il y avait plus. Hein. Avant il y avait plus, mais maintenant c'est avec les rénovations des quartiers et tout. Ça a changé beaucoup, voilà. Après, ils ne donnent pas l'autorisation pour faire du tissu et des articles comme ça. Ouais, c'est tout.
Et donc là, on est au 47 rue de la Goutte d'Or, ici. Est-ce que vous connaissez les gens qui habitent dans l'immeuble?
Oui, un peu, pas beaucoup. Hein. Voilà, juste, on sympathise, bonjour, bonjour. Voilà, c'est pas grand-chose, mais je les connais presque tous. Hein. Ouais.
Ça, c'est ce grand panneau d'affichage là, c'est moi qui l'ai mis. Bon, il y a une dizaine d'années à peu près. En me disant bon, qu'il allait servir un petit peu à tout, donc ça sert un petit peu à, comme moyen d'expression pour les gens qui ont envie de s'exprimer. Et puis, il y a quelques trucs d'information là-dessus.
Bonjour.
Bonjour, monsieur. Voilà, et là, on a alors la cour, là, donc qui a... La cour.
Ça, c'est le problème de la trou.
Ça va bien.
Il dit bonjour,
Oncle.
Voilà.
Je te fais un
bisou. Bon, Abel, il vous dira pas bonjour, mais non, mais il dit quelques mots. Il dit au revoir,
oui, il dit au revoir.
Mais pas bonjour. Il a une politesse
c'est
sélective.
C'est un bon début.
Alors, la première personne que j'ai rencontrée, c'était une merveilleuse rencontre, c'était Pierre Chaussat, qui en fait était ami du propriétaire de la maison. Donc qui m'a accueilli, qui a ouvert les bras, qui était très enthousiaste à l'idée de travaux. Et il disait qu'ils avaient toujours rêvé de faire de cette maison un espèce de lieu d'échange et de rencontre. Et en voyant comment on prenait la maison pour la réhabiter, voyant ce caractère un petit peu social que j'ai, il était ravi de voir un petit peu le rêve de son vieux rêve s'accomplir. Donc c'était très sympa, on a pas mal discuté.
On a l'impression qu'il va tomber, il a un peu la démarche de l'homme ivre. Tu viens, Abel? T'en vas où comme ça? Dans la rue?
Quand je suis arrivée, la cour et la maison étaient des ruines, c'était complètement abandonné. Donc une espèce de dépotoir avec plein d'ordures, tout des débris d'anciens travaux dans différents immeubles, et enfin d'appartements plutôt. Et maintenant, elle est toute verte, elle est touffue. On s'y sent bien, enfin à mon sens. On essaie de faire pousser des framboises, des tomates cerises. On a des beaux camélias en fleurs.
Voilà, du quartier.
Ça veut dire et quelques herbes aromatiques.
Un petit verre. Bah ouais, carrément. Tiens, Abel, tu reviens.
Qui veut quoi?
Bon. J'ai pas envie qu'il attrape les trucs à souris.
Alors, moi, je veux bien. Je veux bien un verre de vin. Mais t'as des verres ou pas?
Verres.
Ouais.
Ah oui, on n'a pas pensé à ça.
J'ai pas envie.
Du rouge, du blanc.
Du blanc, très bien. J'ai goûté le blanc, moi.
Oui, donc, plus petit riz.
Et Pierre Chaussat, vous l'avez pas.
Pierre Chaussat, je pense qu'il est fatigué en ce moment là.
D'accord.
Du coup, il passera certainement pas.
Ouais, en général, de toute façon, quand il y a trop de monde, il.
Ouais, voilà. Les quand apéros, c'est intimiste, il aime
préfère
bien.
Préfère les petits cafés.
Ah, mais on trinquera à sa santé.
Pas ouvert le paquet. Moi.
Et hop, donc deux verres de blanc.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, moi je m'appelle Bérangère, je suis la compagne de Pierre. Donc on a un petit garçon qui s'appelle Abel. Et on est arrivé on a emménagé le 11 novembre 2011. Donc 11-11-11.
C'était assez rigolo.
Voilà.
On habite au premier, ouais. Donc c'était un appartement qui était un vieux monsieur, en fait, qui est apparemment, on l'a appris, qui est mort dans. Enfin, on le savait, hein, mais qui est mort dans l'appartement.
Voilà. On ne savait pas combien de temps il était resté, mais apparemment, c'est quelques semaines. Voilà. Après, ça ne nous a pas hanté hein, plus que ça. On n'a pas peur des fantômes.
Et puis, c'est plutôt. Moi, j'aimerais bien mourir chez moi.
Alors, en fait, on vend l'appartement demain et on emménage à Porte des Lilas. Du coup, donc, on fait tout ça dans le week-end.
Donc on quitte le quartier et l'immeuble.
Parce que moi, ça fait une semaine où j'ai marqué votre déménagement samedi matin et à chaque fois que j'ouvre mon agenda, j'ai un petit pendement au cœur, une petite envie de pleurer. Ça me chagrine un petit peu, c'est la fin d'une belle époque.
Ah, il y a Thierry qui arrive.
Ouais.
Bonjour, je m'appelle Thierry, j'habite au 3e et je suis là depuis quelques années maintenant, je compte plus d'ailleurs. Quelque chose qui m'a marqué en arrivant ici... Il y avait cette cour notamment, qui était vide, qui était pleine de mousse, qui était inhabitée. Il y avait juste les poubelles. Et ça faisait un peu triste, ça faisait un peu vide. Il y avait déjà cette table là, la table derrière, qui était censée servir pour laisser ses plantes quand on partait en vacances, pour que les autres s'en occupent. Mais il n'y avait que ça. Et donc du coup, bah, maintenant ça fait plaisir de la voir vivante, pleine de verdure.
Je suis Florent, j'habite au 4e étage et ça fait à peu près 2 ans que je suis là. Alors moi, je connais la plupart des gens de vue principalement, puisque je les croise de temps en temps, mais je suis honteusement peu sociable.
Voilà.
Mais je suis assez certain, j'ai vu qu'il y avait un rassemblement, donc je suis venu pour
socialiser
justement.
En arrivant ici, j'avais l'impression de trouver un esprit de village, mais un esprit de village positif. Et le village d'où je viens, bah, en fait, il se passe la même chose qu'ici. C'est que finalement, ça bouge. Ça bouge, il y a des jeunes qui arrivent, qui viennent d'ailleurs. Et bah, ça renouvelle l'esprit du village également. Bah, tout comme ici, en fait. Ça change.
Et c'est agréable. Juste ça. J'ai habité dans d'autres quartiers de Paris et les habitants... Dès que c'est un peu plus central, ça bouge, ça brasse et les gens se reconnaissent pas. Alors qu'ici, puis bon, peut-être qu'on est aussi un peu reconnaissable, quoi.
Ouais, dans la population générale. C'est exactement ça. Je trouve que c'est un peu hypocrite. Les gens nous reconnaissent, ils nous sourient, mais regardez entre nous, on est tous, tous minimum bac plus 5.
Ouais.
Enfin, les 3/4 propriétaires à 30 ans. Enfin, c'est quand même un petit cercle de privilégiés, une culture ouverte au sein d'un quartier. Donc, effectivement, il y a de la reconnaissance, il y a de la sympathie.
On n'est pas en HLM, on habite Paris, donc déjà, oui.
Après, c'est sûr que la mixité, elle est pas, enfin, elle n'existe pas. Moi, je vote dans l'école juste à côté, et ils ont affiché les photos de classe. Et ben, sur les photos de classe, il y a peut-être 25 enfants, mais il y a pas un seul blanc. Alors, je dis pas que les bobos sont tous blancs, hein, mais il y a des blancs ici dans le quartier. Et ils sont pas dans le public.
Nina ? Descends l'ordi avec les paroles, on va jouer tous ensemble.
Ok. Mais tu vas jouer de la guitare ?
Ouais, descends la guitare aussi.
Ok, super.
Alors, j'ai acheté ici, dans le dossier que m'a fourni l'agence immobilière, avec tous les comptes rendus d'AG et tout ça, il y avait le journal qui éditait à l'époque Pierre Chaussat sur l'immeuble. Il y avait une version du journal dans les archives. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça. Ça promet, ça va être sympa, je le sens.
Cour des miracles, rue de la foule solitaire, rue du rebut, impasse du malheur, carrefour du tiers-monde, rue de mes racines et de ma mauvaise conscience, je t'aime. J'ai chaud dans tes bras, dans ton ventre. Merde, ma crêle, t'as des chicots plein la gueule, tu pues, t'es fardé à plâtre et à sang, tu pustules, mais tu fais pas vitrine. Toi, ils t'ont pas désinsectisé. Ils t'ont pas réparé, ravalé, restauré. T'es trop moche, la goutte. T'es pas historique et puis... T'es bien pratique.
En ce temps, la blanche
famille. On blanchissait de mère en fille. Maintenant on blanchit encore. À la goutte d'or, à la goutte d'or. Elle était encore demoiselle, ton maman la belle Isabelle, quand elle épouse un grand Nestor. À la goutte d'or, à la goutte d'or. Et maman Pauline était sage.
Parole de À la goutte d'or, Aristide Bruand. Elle était encore demoiselle, grand-maman, la belle Isabelle, quand elle épousa le grand Nestor à la goutte d'or. Et maman Pauline était sage, le jour qu'elle se mit en ménage avec papa, le petit Victor, à la goutte d'or.
Le 47 rue de la goutte d'or.
Un documentaire de Nina Almberg et Simon Pochet.
Avec la participation de Pierre Chaussat, Olivier Yasmina Arnaud, Jackie Libaud, Jean Forest, Marie Barbet, Habib Boubzizi, Marianne Pignot, Pierre-Maurice Bérangère-Briard et leur fils Abel, Thierry Depeau, Florent Dichy et Doris Bussao.
Aujourd'hui, il faudra ces demoiselles, des machins avec des dentelles, et des vrais bijoux en vrai or.
Extrait d'un manuscrit écrit au début des années 80, La Varable de la Grande Paroi, et exhumé dans les ruines de la bibliothèque de la Goutte d'Or, beaucoup plus tard.
À la Goutte d'Or, à la Goutte d'Or.
Extrait de deux nouvelles de Pierre Chaussat, lues par leur auteur.
Les gosselines, les gigolettes, ça y plus avec leur trésor. À la goutte d'or, à la goutte d'or.
Prise de son, Julien Bourdet, Andreas Jaffré et Yves Lehors. Mixage, Pierre Mine. Réalisation, Véronique Lamondour. Équipe de coordination, Irène Omelianenko, Inès Debrine et Alice Ramon.
Merci à tous les habitants du 47 rue de la Goutte d'Or.
Vous pouvez réécouter, podcaster cette immersion dans un immeuble du 18e arrondissement de Paris, le 47 de la Goutte d'Or, par Nina Almberg et Simon Pochet. Tout est sur le site internet de France Culture. Demain soir, dans les ateliers de la nuit, comment des réalisateurs comme Pascal Tessot ou Rachid Jaidani ont inventé une nouvelle façon de faire du cinéma, sans attendre qu'on leur donne la permission ou l'argent. Le pont de Brooklyn, Saint-Denis Style, de et par Gaël Gillon. En attendant, vous écoutez France Culture, il sera bientôt minuit, et c'est l'heure des nuits